SBS Radio.
Tout d'abord, les grands titres de ce mardi. Le cardinal australien, le catholique George Pell, reconnu coupable d'agression sexuelle sur des enfants. Une expansion massive du système d'énergie de Snowy Hydro a été approuvée par le gouvernement fédéral. Les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions contre le Venezuela et ont appelé à une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le cardinal catholique George Pell a été reconnu coupable d'abus sexuels d'enfants en 1996 après un procès à Melbourne. Cardinal Pell était autrefois le troisième homme le plus puissant du Vatican. Le verdict a été rendu à l'unanimité par un jury le 11 décembre dernier devant le tribunal de district de Melbourne, mais il n'a été rendu public que ce mardi après des mois de procédures confidentielles. Le cardinal Pell est en congé de son poste de trésorier du Vatican et sera condamné demain mercredi. Son avocat Robert Richter QC va faire appel du jugement. Une expansion du système d'énergie de Snowy Hydro a été approuvée par le gouvernement fédéral. Le premier ministre Scott Morrison se rendra aujourd'hui dans la ville de Tumut, dans le sud de la Nouvelle-Galles du Sud, pour l'annonce officielle. Le gouvernement fédéral contribuera près de 1,3 milliard de dollars au financement de la proposition dite Snowy 2.0, tandis que Snowy Hydro financera le reste. Le Premier ministre Scott Morrison est sûr que l'Australie atteindra ses objectifs de réduction des émissions de gaz avec l'aide d'un nouveau fonds de 2 milliards de dollars qui va permettre aux entreprises de réduire la pollution. Scott Morrison a déclaré que l'Australie faisait plus que sa part dans la lutte contre le changement climatique par rapport à d'autres pays. Il a déclaré sur l'ABC que le pays était en passe d'atteindre son objectif de réduction des émissions de 26 à 30% d'ici 2030.
1.3% is our share of global emissions, and that is less than other countries, it's more than some, and it is all part of a global response that we're part of and that we have been achieving.
Le Parti travailliste a promis d'utiliser une nouvelle taxe sur les grandes banques australiennes pour employer plus d'avocats spécialisés dans les droits financiers. Donc ces avocats passeront de 40 à 240 si le Labour remporte les élections. L'opposition devrait faire l'annonce ce mardi. Les avocats aideraient les victimes d'actes liés aux services bancaires et financiers par le biais de tribunaux et de l'Australian Financial Complaints Authority. Une enquête sur la mort d'un réfugié iranien en détention à Nauru se poursuit à Brisbane aujourd'hui, mardi. Hamid Massoumali, 24 ans, est décédé en avril 2016 après s'être immolé par le feu à Nauru. Katie Robinson du Centre des droits de l'homme a déclaré qu'elle espérait que l'enquête favoriserait une discussion plus large sur le traitement réservé par l'Australie aux réfugiés et aux demandeurs d'asile. Les États-Unis ont ciblé le gouvernement du Venezuela avec de nouvelles sanctions après que des violences meurtrières ont empêché l'aide humanitaire d'atteindre le pays frappé par la crise politique. Les États-Unis ont également lancé une campagne de pression auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, leur demandant de discuter de la situation au Venezuela. Les nouvelles sanctions ont été annoncées à Bogota par le vice-président américain Mike Pence et le chef de l'opposition du Venezuela, Juan Guaido.
President Guaido, we admire your courage and the courage of all the opposition leaders who have come together to make this stand, to end the suffering and end the oppression and end the usurpation and dictatorship in Venezuela.
Des djihadistes français seront jugés en Irak. C'est la nouvelle qui a été annoncée après le déplacement du président irakien à Paris hier. Il a rencontré le président français Emmanuel Macron. Reportage Oriane Verdier pour RFI.
À l'Élysée, face à la presse, la conversation s'est concentrée sur le renforcement de la collaboration militaire, culturelle et économique franco-irakienne. Mais lorsque les journalistes ont abordé le sujet des 13 Français transférés de Syrie en Irak, le président irakien Barham Saleh a répondu sans détour.
13 combattants de Daesh ont été neutralisés dans le cadre d'opérations militaires et ont été remis aux autorités irakiennes. Ils sont accusés d'avoir commis des crimes contre des Irakiens, contre des installations irakiennes en Irak. Ils seront jugés selon la loi irakienne, comme le prévoit le droit international. Nous agissons dans ce cadre pour traiter ce problème actuellement.
Pour l'heure, il n'est pas question de rapatriement en France, donc pour le président français Emmanuel Macron.
Pour les Français majeurs détenus ou qui seraient transférés, ils relèvent d'abord des autorités de ce pays à qui il revient de décider souverainement s'ils doivent faire l'objet de procédures judiciaires sur place. Et le président y reviendra. Et ces personnes ont le droit de bénéficier de la protection consulaire.
Ce ne seront pas les premiers Français accusés de terrorisme à passer devant un tribunal irakien, mais le débat grandit avec le nombre de prisonniers. En plus d'appliquer la peine de mort, la justice irakienne est jugée trop expéditive par les défenseurs des droits de l'homme.
En Afrique, au Sénégal, la tension est retombée après le premier tour de la présidentielle de dimanche dernier. Les résultats provisoires devraient être annoncés ce jeudi. Guillaume Thibault est l'envoyé spécial de RFI sur place.
115 observateurs composaient cette mission déployée dans 13 régions sur 14. Boni Yayi s'est exprimé durant 40 minutes. Pour l'ex-président du Bénin, ce scrutin présidentiel a été exemplaire dans son déroulement.
24 février 2019 au Sénégal, une date historique. Le scrutin a eu lieu dans le calme, la discipline et dans un esprit remarquable. Une grande affluence à la mesure de la culture démocratique de ce pays.
Boni Yayi et son équipe n'ont noté aucune difficulté majeure susceptible de remettre en cause ce premier tour de l'élection présidentielle.
Aucun incident majeur confirmé ou observé dans les bureaux de vote visités pouvant compromettre la transparence, la crédibilité de ce scrutin.
Conscient que la phase d'annonce des résultats pourrait être tendue, Boni Yayi a appelé toutes les parties à respecter la loi en cas de contestation.
Aussi, en appelons-nous à continuer de garder le calme, pour régler dans la sérénité les différends éventuels par les canaux légaux appropriés.
Plus de 5000 observateurs étaient déployés au Sénégal pour ce premier tour. Ce mardi, c'est la mission de l'Union européenne qui présentera son bilan.
Et puis les élections au Nigeria avec les premiers résultats qui arrivent au compte-gouttes. Les électeurs ont voté samedi dernier, je rappelle, pour les législatives et la présidentielle. Reportage Binta Diane pour RFI.
Jusque-là, Muhammadu Buhari est en tête dans 7 des 36 États que compte la République fédérale. Il conserve notamment les États de Gombe et de Yobe. Il marque un point important en se maintenant dans l'État de Kwara, puisque Kwara est le bastion de Bukola Saraki, l'actuel président du Sénat, avec lequel Muhammadu Buhari était à couteau tiré pendant tout son mandat. En juillet dernier, Bukola Saraki avait en effet mené une fronde contre le président, emportant derrière lui 14 sénateurs et 37 députés qui ont alors quitté l'APC pour rejoindre l'opposition du PDP. À peine annoncés, ces résultats sont déjà contestés par le PDP, principal parti d'opposition, qui accuse l'INEC de manipuler les résultats afin de maintenir l'APC au pouvoir. De son côté, l'ambassadeur américain au Nigeria met en garde les partis qui tenteraient d'aller à l'encontre de la loi électorale en annonçant leur victoire avant l'annonce officielle de la commission électorale.
La Cour internationale de justice a par 13 voix contre une estimé hier que la Grande-Bretagne avait illégalement détaché les Chagos du territoire de Maurice. Affaire à suivre. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est en route pour le Vietnam où il doit rencontrer le président américain Donald Trump ce mercredi. Stéphane Lagarde est l'envoyé spécial de RFI.
Le Vietnam n'a pas été choisi uniquement pour ses capacités à organiser des sommets internationaux, mais aussi pour sa discrétion. C'est d'ailleurs ce qu'a fait remarquer ce lundi le Premier ministre vietnamien en conférence de presse, ce dernier expliquant que ce n'est pas à la puissance invitante, mais aux délégations d'annoncer leur programme. Le train vert blindé de Kim Jong-un a été signalé ce matin dans le centre de la Chine et à 16h, photo sur le site du Toiger, le premier quotidien au Vietnam, une image montrant une haie d'honneur de soldats vietnamiens dans la gare de Dong Dang, à la frontière avec la Chine où l'écartement des rails change, ce qui laisse entendre que Kim Jong-un est bien arrivé au Vietnam où il aurait laissé son train pour repartir en voiture. Impossible d'en savoir davantage. Selon la presse vietnamienne, Kim Jong-un devrait visiter demain le port de Haiphong, le plus grand centre industriel du pays, où il sera reçu par le numéro 1 de la ville pour montrer l'engagement de Pyongyang à réformer son économie et peut-être aussi un arrêt devant le mausolée Ho Chi Minh où était venu se recueillir son grand-père, Kim Il-sung, et montrer ainsi la continuité de la dynastie des Kim.
Coup d'œil météo pour ce mardi en Australie. Perth maximal de 37 degrés. Adélaïde 36 degrés. Melbourne 24. Hobart 21. Canberra 32. Sydney 27. Brisbane 29. Cairns 31. Darwin 33. Et à Alice Springs maximal de 38 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi, le cardinal australien, le catholique George Pell, reconnu coupable d'agression sexuelle sur des enfants. Une expansion massive du système d'énergie de Snowy Hydro a été approuvée par le gouvernement fédéral. Fin du journal et merci de rester avec nous.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.